Collective, l'émission qui explore les questions féministes. Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder.
Bonjour, ce mois-ci sur le plateau de la collective, je suis avec Alizée. Bonjour Alizée.
Salut.
Et avec Vanessa.
Salut Vanessa.
Donc ce mois-ci, pour introduire notre émission, on a décidé de revenir sur une histoire dont on a forcément entendu parler, qu'on l'ait suivie de près ou de loin, celle de Britney Spears. Britney Spears, c'est cet enfant issu d'un milieu très modeste et qui rêvait d'être une star. Elle l'a été, elle a même été ce qu'on appelle une enfant star, puisqu'elle était encore toute jeune lorsqu'elle a commencé à présenter une émission du Club Mickey. La construction de son personnage de Lolita, reposant sur une sexualisation des codes de l'enfance, n'a fait bondir personne à cette époque alors qu'elle n'était réellement qu'une enfant. Et elle s'est muée en attitude définitivement hyper sexy à sa majorité. C'est là que les passions des foules se sont déchaînées. Ses faits et gestes, mais surtout sa vie privée, sont disséqués et commentés jusqu'à la nausée. Britney Spears est traquée en permanence et complètement déshumanisée. Elle est jugée sur tout sauf sur sa musique, les journalistes de l'époque se permettant des questions d'une rare violence, celle qui revient le plus souvent étant celle sur sa virginité. Revoir les images de ses interviews est vraiment glaçant. Britney Spears connaît une notoriété aussi fulgurante que déstabilisante. Elle enchaîne dépression, divorce, perte de la garde de ses enfants sur fond de harcèlement de la part des paparazzi, associé à un lynchage rendu public. Sa détresse psychique l'amène jusqu'à l'hospitalisation en psychiatrie. C'est suite à cette période qu'elle sera mise sous la tutelle de son père. C'est à cette période qu'elle accomplit le geste fortement symbolique de se raser la tête. À aucun moment de ces phases, elle ne suscite l'empathie chez les médias. Aujourd'hui, sa tutelle qui aura quand même duré 13 ans a pris fin et force est de constater que ce n'est ni grâce à notre soutien indéfectible, ni à notre sororité, ni aux féministes en général. Non, c'est un fan qui a lancé une alerte sur cette tutelle qui lui semblait abusive et s'est ensuivi un grand mouvement de soutien pour la star, débouchant non seulement sur la fin de cette tutelle, mais aussi la remise en question de tout un système et des lois qui le régissent. Aujourd'hui, quoi que montre Britney Spears de sa personne, c'est elle qui en est à l'origine.
Mais revenons-en à nous qui nous disons féministes. Qu'en a-t-il été de notre réaction face au phénomène Britney ? Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été questionnées, et si on est tout à fait honnête, les réactions n'étaient pas que bienveillantes. Parce que Britney Spears jouait avec des codes que nous rejetons, parce qu'elle était parfois vulgaire, et qu'elle avait fait des choix qui nous dérangeaient. Comment ne pas avoir vu ce qui se jouait, ne pas avoir dénoncé le harcèlement médiatique qu'elle subissait ? Sans parler de l'acharnement dont elle a été victime, qui n'a jamais connu de commune mesure chez les célébrités masculines. Alors aujourd'hui, avec le recul, on se dit qu'il y a tellement de manières d'incarner le féminisme qu'à l'avenir, on évitera de tomber dans le piège des codes et des faux-semblants. On va essayer de pallier à notre manquement auprès de Britney, en se racontant des histoires, celles qui font bouger les lignes, parfois même sans en avoir conscience, à commencer par nos mamans.
Paparazzi who's flipping me off, hoping I'll resort to some hat.
love, I can end up settling in court. Now are you sure you want a piece of me? You want a piece of me? This is most likely to get on the TV for slipping on the streets when getting the groceries. Not for real, are you kidding me? No wonder there's panic in the industry, I mean please. Do you want a piece of me? I'm Mrs. Lifestyle, the rich and famous.
You want a piece of me?
I'm Mrs. Oh my god, that Britney shameless.
You want a piece of me?
I'm Mrs. Extra, extra delicious skin.
You want a piece of me?
I'm Mrs. She's too big, now she's too thin.
You want a piece of me?
Stick away to the Philippines. They still go for pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me?
You want a piece of me? Me.
Je crois que jamais ma mère n'aurait imaginé qu'on parle dans une même émission de Britney Spears et de son idole absolue, l'écrivaine Annie Ernaux. Et ce mélange me réjouit beaucoup. J'ai justement particulièrement envie de vous faire écouter quelques extraits d'Une femme, où Annie raconte l'histoire de sa mère, née en 1906 dans un milieu très populaire. Elle fut ouvrière à l'usine dès ses 12 ans, avant d'ouvrir plus tard un café alimentation à Yvetot, en Normandie, là où Annie Ernaux a grandi. La mère d'Annie Ernaux ne fut pas une militante, une philosophe ou une artiste avant-gardiste. Pas de strass ni de paillettes. La mère d'Annie Ernaux est une femme qu'on pourrait qualifier d'ordinaire. Alors je sais, c'est pas super sexy raconté comme ça. Heureusement qu'on a commencé avec Britney. Moi-même, j'ai mis super longtemps d'avoir envie de lire Annie Ernaux. Ça me semblait pas assez punk, et il faut bien dire que le fait que ce soit l'idole de ma mère n'a pas joué en sa faveur. Mais un jour, je suis tombée à la radio sur des lectures d'un de ses livres, et depuis, elle côtoie Virginie Despentes et les vulves assassines dans mon petit panthéon féministe. Mais bon, je disais donc que la mère d'Annie Ernaux est une femme ordinaire. Et pourtant, son existence mérite d'être racontée. Sans doute même d'autant plus. N'est-ce pas justement aux féministes de raconter l'histoire des femmes ordinaires? Pas juste celle des héroïnes, des vainqueurs et des puissants, mais aussi et surtout raconter celle des personnes dont le nom n'a pas été retenu, mais qui ont néanmoins fait le monde dans lequel on évolue. La mère d'Annie n'est pas un modèle de féminisme, ni de quoi que ce soit. Mais la force du récit, c'est justement de montrer la complexité du personnage, dans lequel on ne pourrait voir qu'une mère réactionnaire et parfois violente. La force d'Annie Ernaux, c'est de montrer comment sa mère se dépatouille avec des contraintes sociales, économiques, morales. Moi, ça me fait réfléchir à comment c'est pas simple d'être une mère, et à comment on en demande moins au père. Vous savez ce truc où les papas qui poussent une poussette ou jouent avec leurs enfants attirent souvent des regards approbateurs, du genre « c'est bien, c'est un bon papa ». Alors qu'une mère faisant la même chose ne va attirer aucune attention, c'est juste une mère qui fait son travail. Moi j'ai beaucoup eu ce regard sur mes propres parents. Il arrivait souvent à mon père de faire une tirade sur le féminisme, assis dans son canapé, buvant le café que ma mère venait de lui apporter. Et ça marchait très bien sur moi. Je me disais que j'avais de la chance d'avoir un père féministe. Alors que de ma mère, je la percevais surtout comme la personne qui brimait mes désirs d'émancipation parce qu'elle voulait pas que j'achète une mobylette. Je crois qu'une femme m'a aidée à me réconcilier avec ma mère et je croise les doigts pour que ça marche avec les vôtres.
Elle claquait les portes, elle cognait les chaises en les empilant sur les tables pour balayer. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec bruit. Elle ne posait pas les objets, mais semblait les jeter. À sa figure, on voyait tout de suite si elle était contrariée. En famille, elle disait ce qu'elle pensait en paroles abruptes. Elle m'appelait chameau, souillon, petite garce ou simplement déplaisante. Elle me battait facilement, des gifles surtout, parfois des coups de poing sur les épaules. Ah, je l'aurais tué si je ne m'étais pas retenue. 5 minutes après, elle me serrait contre elle et j'étais sa poupée. Elle m'offrait des jouets et des livres à la moindre occasion, fêtes, maladies, sorties en ville. Elle me conduisait chez le dentiste, le spécialiste des bronches. Elle veillait à m'acheter de bonnes chaussures, des vêtements chauds, toutes les fournitures scolaires réclamées par la maîtresse. Elle m'avait mise au pensionnat, non à l'école communale. Quand je remarquais qu'une camarade avait par exemple une ardoise incassable, elle me demandait aussitôt si j'avais envie d'en avoir une. « Je ne voudrais pas qu'on dise de toi que tu es moins bien que les autres. » Son désir le plus profond était de me donner tout ce qu'elle n'avait pas eu. Mais cela représentait pour elle un tel effort de travail, tant de soucis d'argent, et une préoccupation du bonheur des enfants si nouvelle par rapport à l'éducation d'autrefois, qu'elle ne pouvait s'empêcher de constater. « Tu nous coûtes cher. » Ou « Avec tout ce que tu as, tu n'es encore pas heureuse. » À l'adolescence, je me suis détachée d'elle, et il n'y a plus que la lutte entre nous deux. Dans le monde où elle avait été jeune, l'idée même de la liberté des filles ne se posait pas, sinon en termes de perdition. On ne parlait de l'asexualité que sur le mode de la grivoiserie interdite aux jeunes oreillers, ou du jugement social, avoir bonne ou mauvaise conduite. Elle ne m'a jamais rien dit, et je n'aurais pas osé lui demander quoi que ce soit, la curiosité étant déjà considérée comme le début du vice. Mon angoisse, le moment venu de lui avouer que j'avais mes règles, prononcer pour la première fois le mot devant elle, et sa rougeur en me tendant une garniture, sans m'expliquer la façon de la mettre. Elle a cessé d'être mon modèle. Je suis devenue sensible à l'image féminine que je rencontrais dans l'écho de la mode et dont se rapprochaient les mères de mes camarades petites bourgeoises du pensionnat. Mince, discrète, sachant cuisiner et appelant leur fille « ma chérie ». Je trouvais ma mère voyante. Je détournais les yeux quand elle débouchait une bouteille en la maintenant entre ses jambes. J'avais honte de sa manière brusque de parler et de se comporter. D'autant plus vivement que je sentais combien je lui ressemblais. Je lui faisais grief d'être ce que, en train d'émigrer dans un milieu différent, je cherchais à ne plus paraître. Et je découvrais qu'entre le désir de se cultiver et le fait de l'être, il y avait un gouffre. Ma mère avait besoin du dictionnaire pour dire qui était Van Gogh. Des grands écrivains, elle ne connaissait que le nom. Elle ignorait le fonctionnement de mes études. Je l'avais trop admirée pour ne pas lui en vouloir, plus qu'à mon père, de ne pas pouvoir m'accompagner, de me laisser sans secours dans le monde de l'école et des amis avec salon bibliothèque, n'ayant à m'offrir pour bagage que son inquiétude et sa suspicion. « Avec qui étais-tu ? Est-ce que tu travailles au moins ?» Nous nous adressions l'une à l'autre sur un ton de chamaillerie en toutes circonstances. J'opposais le silence à ses tentatives pour maintenir l'ancienne complicité, on peut tout dire à sa mère, désormais impossible. Si je lui parlais de désirs qui n'avaient pas trait aux études, voyage, sport, surboom, ou discuter de politique, c'était la guerre d'Algérie, elle m'écoutait d'abord avec plaisir, heureuse que je la prenne pour confidente, et d'un seul coup avec violence, cesse de te monter la tête avec tout ça. L'école en premier. Je me suis mise à mépriser les conventions sociales, les pratiques religieuses, l'argent. Je recopiais des poèmes de Rimbaud et de Prévert, je collais des photos de James Dean sur la couverture de mes cahiers, j'écoutais la mauvaise réputation de Brassens. Je m'ennuyais. Je vivais ma révolte adolescente sur le mode romantique, comme si mes parents avaient été des bourgeois. Je m'identifiais aux artistes incompris. Pour ma mère, se révolter n'avait eu qu'une seule signification. Refuser la pauvreté, et qu'une seule forme, travailler, gagner de l'argent et devenir aussi bien que les autres. D'où ce reproche amer que je ne comprenais pas plus qu'elle ne comprenait mon attitude. Si on t'avait fichu en usine à 12 ans, tu ne serais pas comme ça, tu ne connais pas ton bonheur. Et encore, souvent, cette réflexion de colère à mon égard. Ça va au pensionnat et ça ne vaut pas plus cher que les autres. À certains moments, elle avait dans sa fille en face d'elle, une ennemie de classe.
Parmi les personnalités qui ne se revendiquent pas féministes, mais qui habitent une place atypique dans le monde de la musique, on retrouve PJ Harvey. PJ Harvey, c'est une chanteuse, musicienne, poétesse anglaise. Une vraie référence dans le milieu rock où elle s'est imposée à grands coups de riff de guitare électrique et de textes aussi puissants que sa présence sur scène. Elle ne s'impose aucune limite et n'a de cesse de se renouveler et d'explorer. C'est une conquérante de la scène rock qui électrise et fait valser les tabous. Très peu à l'aise avec les codes attribués à la féminité dans nos sociétés, lorsqu'elle s'en saisit, c'est en les théâtralisant comme pour les tourner au ridicule, ou en tout cas poussant certains traits jusqu'au grotesque. PJ Harvey déteste coller à ce qu'on attend d'elle. Mais malgré tout ce qu'elle incarne, elle dit dans une interview des Un Rock en 92.
On attend encore plus des filles qu'elles se conforment à des stéréotypes, c'est vrai. Hier soir, dans le petit pub de mon village, la patronne racontait que le rôle d'une femme était de cuisiner, de faire le ménage, pas de travailler. Ma famille ne l'entendait pas de cette oreille, ils se sont engueulés. Et moi, j'étais là, au milieu, je ne pouvais rien dire. Les gens d'ici sont comme ça, c'est tout. Ça ne rend pas spécialement les choses plus difficiles pour des filles comme moi, ces stéréotypes sont faciles à refuser. Le féminisme est un concept beaucoup trop vaste et collectif pour moi. Je ne peux comprendre les choses qu'au niveau individuel, à une petite échelle, la mienne. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais je suis incapable de penser de façon globale.
PJ Harvey nous montre comment on n'est pas toutes fortes pour les mêmes choses. Elle a eu la force et l'opportunité de s'émanciper de certains stéréotypes pour nous offrir de super chansons et un modèle de puissance. Mais nous, comme on ne sait pas chanter, on va continuer à explorer des pistes d'émancipation plus collectives. En attendant, on écoute Sheila Nagig de PJ Harvey.
Il y a des trucs, comme les réunions en non-mixité, qui existent à peu près depuis que le patriarcat existe. Il y a bien sûr les cercles où les hommes se retrouvent entre eux, même s'ils ne l'assument pas. Il y a aussi les espaces que se sont aménagés les femmes pour résister en sous-marin. Les réunions dans la cuisine pour parler chiffon peuvent prendre des airs de révolution. En tout cas, l'entraide matérielle, le partage d'expériences, les moments arrachés au quotidien, contiennent souvent les germes d'une émancipation individuelle ou collective. Il est crucial de reconnaître la dimension politique et sociale de ces actes, qu'on a tendance à occulter, surtout quand ils sont portés par des femmes racisées et ou issues de milieux populaires. Le parcours de Swad est à ce propos éloquent. Souad, elle a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Elle raconte une enfance joyeuse avec de la mixité sociale. Ado, elle part vivre dans le centre-ville avec sa mère. Et puis adulte, elle se marie, elle a des enfants. Quelques années plus tard, elle retourne vivre dans les quartiers nord.
En 1997, enceinte de son troisième enfant, elle quitte son mari et retourne vivre chez sa mère au Plan Daou. Là, elle rejoint le Secours catholique du 15e arrondissement en tant que bénévole. J'animais des ateliers de cuisine avec un groupe de femmes battues. On se retrouvait entre femmes, je leur apprenais la cuisine française et elles m'apprenaient leur cuisine. Avec les repas qu'on préparait, on se payait des séjours en dehors de Marseille. Mais au fond, la cuisine était surtout un prétexte pour parler de nos histoires personnelles. Souad garde un souvenir très clair de son premier voyage à Margevol, en Lozère, à environ 300 km de Marseille. C'est la première fois que je voyageais entre femmes. Chacune parlait de ses problèmes, de sa vie, et ça nous donnait une vraie force. C'était magnifique. Souad se sent animé d'une énergie nouvelle. J'avais l'impression qu'il y avait un combat à mener. Les quartiers nord étaient trop délaissés. Comme j'en étais partie un temps, je les voyais différemment. Quand je vivais au centre-ville, je sortais, j'allais au restaurant, à la plage des Catalans. Je n'étais pas une femme enfermée dans le bloc. Ici, elle ne vivait qu'entre elles. Il y avait des filles de mon âge qui ressemblaient à des vieilles. C'est pas ça la vie. Peinant à retrouver un logement pour elle et ses enfants, Souad assiste à une rencontre avec le maire du secteur dans le cadre d'un plan de relogement du Plan Daou. Tout le monde était très en colère, certains attendaient d'être relogés depuis 15 ans. On était une dizaine de mères seules. Au bout d'un moment, le maire m'a regardée et m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas une association, madame? Les gens vous écoutent et vous allez droit au but. » C'est chose faite en 1998, avec les femmes du Plan Daou en action. C'est l'une des premières associations de femmes des quartiers nord. Au début, l'association regroupe 10 bénévoles. Ce n'étaient que des femmes qui sortaient déjà de chez elles. On faisait des activités, couture, coiffure, cuisine, raconte Souad. Elle poursuit. Petit à petit, on s'est rendu compte que des femmes qui ne sortaient pas du tout nous ont aussi rejointes. Une première, puis une deuxième. Souvent, le mari n'était pas pour, alors on allait le voir et on lui disait « On ne fait que des gâteaux et des repas partagés entre nous ». Or, ces ateliers continuent d'offrir avant tout à ces femmes l'occasion de parler. Elles se sentent en confiance et discutent entre elles. Sans s'en rendre compte, on fait un travail de psychologue. La parole se libère. Au départ, on parlait des parents, puis du quotidien à la maison, pour finalement arriver aux problèmes qu'elles subissaient avec leur mari ou avec les enfants. C'est aussi dans ces moments-là que des sujets tabous émergent. Certaines femmes avaient un cancer et n'osaient pas en parler. Quand certaines sont décédées, on a pris le relais auprès de leur famille. Souad a vu de nombreuses femmes s'épanouir. Certaines ont passé le permis ou ont décidé de travailler. Pour d'autres, le simple fait de s'extraire de leur foyer les a profondément changées. Elles avaient moins peur de leur mari. Parfois, elles finissaient même par les suivre, s'amuse Souad. Elle se souvient, par exemple, d'un couple. Dès qu'elle le voyait, elle tremblait. Petit à petit, il s'est adouci et a même participé à des activités mixtes, qu'on s'est mise à proposer au bout de 2 ans, après de nombreuses demandes. Mais les personnes que Souad souhaite aider prioritairement restent les mères de famille monoparentales. La plupart des ex-maris de femmes divorcées désertent. C'est dur pour elles d'élever des enfants seules. Elles travaillent, le salaire n'est souvent pas suffisant. Et pendant ce temps, l'enfant est livré à lui-même. Or, on sait qu'ici, la rue prend nos enfants. À partir du collège et de l'adolescence, si tu ne vas pas chercher ton enfant à la sortie, tu risques de le perdre et qu'il soit récupéré par des plus vieux, qui les entraînent dans la drogue ou la violence. Les ados sont livrés à eux-mêmes. Certaines mères travaillent tellement qu'elles ne le savent même pas. C'est l'État qui doit les aider. Sur ce sujet aussi, une entraide se met en place. Au lieu d'être isolées chacune dans notre coin, on s'est regroupées. Si l'une travaillait, l'autre allait chercher son enfant. On parlait entre nous sans tabou. Ces femmes souffrent, on les critique en disant que ça les arrange bien, que leurs enfants soient dans les trafics de drogue pour l'argent. Mais non, une mère ne veut pas que son enfant meure. Elle parle de l'association comme d'un lieu vers lequel on peut se tourner quand on n'a pas de famille. Avant nous, il n'y avait pas grand-chose à part les centres sociaux. Mais eux, ils ont des horaires. À 18h, il n'y a plus personne. Quand il y a un problème, le soir, c'est nous qui nous en occupons. Ça, les institutions ne le voient même pas et c'est un travail qui ne se chiffre pas. Même chose pour le lien de confiance entre les habitants. Le trésorier de l'association, également directeur du centre social voisin, de passage dans les locaux pendant notre rencontre, tient à ajouter « Quand il a fallu monter le dossier pour ouvrir le Café des Femmes, j'ai aidé Swad à rédiger un rapport d'activité. Je lui ai demandé de me lister les activités qu'elle faisait avec l'association. Elle m'a parlé des sorties, des colis alimentaires, etc. Au fil des mois, je me suis rendu compte que ce lieu était très important, qu'un travail complètement invisible s'y effectuait. Qu'elle facilite le relogement de mères à la rue, aide des personnes âgées à remplir leurs documents administratifs, règle des conflits conjugaux. Elle ne l'évoquait pas tellement, ça lui semblait normal, alors qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Swad acquiesce. L'État doit comprendre que ce travail de médiation doit être payé. »
C'était un entretien de Swad Boukeshba mené par Margot Mazelier et cet extrait du livre « Marseille trop puissante, 50 ans de féminisme dans la ville la plus rebelle de France ».
Si ma mère ne s'attendait pas à avoir Annie Ernaux et Britney dans une même émission, les copines de la collective ne s'attendaient pas à ce que je leur propose de passer la musique d'un Metis. Damed, suis-je en train de trahir le féminisme ? Bon, je vous explique. Je me disais qu'à la collective, on passe beaucoup d'artistes femmes cis, mais assez peu d'artistes trans. J'ai donc réfléchi à qui vous faire écouter pour cette émission. Mais j'ai pas trouvé d'artistes trans qui ne soient pas militantes, queer ou LGBTQIA+. Le simple fait de s'outer, c'est-à-dire de se revendiquer comme personne trans, étant déjà un acte engageant politiquement. Et puis la semaine dernière, je me suis retrouvée dans un village de Turquie, à boire du thé avec Erkan, un vieux monsieur qui a voulu me faire écouter le meilleur chanteur de tous les temps, à savoir Zeki Müren. J'ai été assez vite convaincue qu'effectivement, Zeki Müren était le meilleur chanteur de tous les temps. Erkan a sorti son téléphone pour me montrer des images de son idole. Et là, surprise. Zeki Müren semblait sorti de la finale de Drag Race. Mini-jupe en laméor, chaussures compensées de hauteur vertigineuse, cape de reine. Zeki Müren, ses costumes et sa voix incroyable ont éveillé ma curiosité. J'ai ensuite appris que ce fut le chanteur le plus populaire de Turquie, adulé par des milliers de personnes dans les années 60 et 70. L'opinion publique le déclare homosexuel, mais lui, il n'a jamais rien dit à ce sujet. Il n'a jamais défini non plus son identité de genre. Il a juste dit « Les femmes qui mettent des pantalons, on ne leur demande pas si elles sont des femmes ». Mais il est considéré comme ayant joué un rôle de pionnier dans l'acceptation de l'homosexualité et des transidentités dans la société turque. Zeki Müren n'a pas milité sur les questions de genre, mais sa seule présence scintillante a suffi à affirmer beaucoup. Sa force, c'est de pouvoir toucher toute la société, et de faire que 30 ans après sa mort, un vieux monsieur, qui je pense, est très loin des milieux militants LGBTQIA+, écoute encore sa voix en buvant le thé, et ait très envie de le faire découvrir à la touriste française échouée dans son café. On écoute son plus grand tube, Manolia.
Nazlı çiçek.
C'est maintenant l'heure de remiser la robe lamée pour aller se promener 200 ans en arrière dans les halles de Paris. Et on y retrouve celles qui ont changé l'histoire avec un grand H. Une foule d'anonymes, juste galvanisée par l'importance de la lutte à ce moment précis, d'être là, de faire corps, d'être un élan collectif. Pas d'héroïne, d'ego ou de personnalisation, ce sont juste toutes celles qui. Et elles sont souvent les grandes oubliées de l'histoire, à croire qu'on ne sait pas comment faire pour raconter l'histoire si aucune personnalité, masculine de préférence, ne se détache du lot.
Dans la période exaltée qui suivit la prise de la Bastille, les poissardes, ainsi qu'on appelait les femmes de la halle, participèrent en nombre aux processions religieuses qui, sans doute, leur offraient l'occasion d'éprouver leur force collective et de préciser les désirs qui les réunissaient. Un particulier au moins s'inquiéta. De la discipline, de l'apparat, de l'ampleur de processions presque quotidiennes, des femmes de la halle, des planchisseuses, des commerçants et des ouvriers de différents quartiers qui, en août et en septembre, envahirent la rue Saint-Jacques pour la remonter jusqu'à l'église Sainte-Geneviève, d'édification récente, afin d'assister à des services d'action de grâce. Le 25 août, jour de la Saint-Louis, nous rappelle Simon Chama, les femmes de la halle de Paris se rendaient traditionnellement à Versailles afin d'offrir des bouquets à la reine. Habituées à la forme de la procession, ces femmes qui défilaient en cortège pour présenter leur respect à l'Église et à l'État étaient prêtes à défiler pour présenter leurs doléances. Au matin du 5 octobre 1789, une fille se mit à battre le tambour dans les halles, tandis que dans le faubourg Saint-Antoine, une femme obligeait le bedeau à sonner les cloches de l'église. Le son du tambour et le tocsin rameutèrent une foule très majoritairement féminine qui choisit de placer un des héros de la Bastille, Stanislas Marie Maillard, en tête du cortège bientôt formé. Des bourgeoises et d'illustres révolutionnaires, dont Théroigne de Méricourt, se joignirent à cette manifestation essentiellement composée de femmes du peuple. Ensemble, elles se dirigèrent d'abord sur les jardins des Tuileries, qui faisaient alors partie du domaine royal, avant de poursuivre jusqu'à Versailles en réclamant du pain. Quelques heures plus tard, le marquis de Lafayette rassemblait sous ses ordres une armée de 20 000 gardes nationaux, afin de prêter un soutien équivoque aux manifestantes. Arrivées à Versailles en début de soirée, les femmes exigèrent des députés de l'Assemblée constituante qu'ils mettent fin à la disette, pendant qu'une petite délégation était reçue par le roi. À minuit, une foule d'émeutiers des deux sexes se massait devant les grilles du palais. Elle l'investit le lendemain, ivre de fatigue et de rage, au prix d'affrontements sanglants. Ce 6 octobre, la famille royale terrifiée dut regagner Paris dûment escortée par le peuple jubilant, épuisé, victorieux. En tête de la longue procession, 60 000 personnes d'après l'estimation de Lafayette, venait le carrosse royal, entouré de femmes qui tenaient des branches de laurier, suivi de la garde nationale qui protégeait les charrettes de blé et de farine. Derrière, la multitude ravie avançait au milieu d'une forêt de piques et de canons de baïonnettes en criant « Venez voir le boulanger, la boulangère et le petit mitron !» On écrit souvent l'histoire comme si elle était tout entière affaire de négociations à huis clos et de guerres en terrain découvert, de discours et de batailles, de politiciens et de guerriers. Si les premiers événements de la Révolution française, la création de l'Assemblée nationale constituante et la prise de la Bastille, confortent cette vision, les femmes de la halle, citoyennes ordinaires engagées dans des gestes ordinaires, ont indéniablement fait l'histoire. En marchant sur Versailles par milliers, elles réussissent à surmonter le poids d'un passé qui exigeait d'elles le respect de toutes les formes traditionnelles d'autorité. Un jour durant, elles eurent le monde pour elles et ne craignirent plus ni Dieu ni le roi. Toutes leurs peurs anciennes et à venir balayées, elles marchaient résolument et des armées marchaient dans leur sillage. Elles ne demandaient pas du grain à moudre pour l'histoire, mais du blé, du pain à satiété. Elles défilaient, chargées de branches de laurier et armées de baïonnettes, car les baïonnettes opèrent sur le réel et les lauriers sur le symbolique.
C'était un extrait de L'art de marcher de Rebecca Solnit. Difficile de ne pas faire le parallèle avec le très récent mouvement des Gilets jaunes. Composé en grande majorité de personnes qui n'étaient ni politisées ni militantes, elles ont réussi, face à l'escalade des inégalités en France, à créer un élan collectif fort, au point d'en faire trembler le gouvernement.
Alors il y a un autre extrait qu'on avait envie de vous lire, mais on pensait être trop juste au niveau du timing. Comme on a un peu de temps, on n'est pas obligé de choisir entre les révolutionnaires et l'histoire que je vais vous raconter, qui est extraite du livre d'Hilaria, qui s'appelle « Récit intime pour un féministe révolutionnaire ». Elle va nous parler de deux sœurs espagnoles. À Santiago de Compostela, il y a une statue colorée représentant deux personnages féminins se tenant par le bras. Elles sont debout, avec des manteaux. L'une porte un parapluie, l'autre un foulard sur la tête. Cette dernière tend le bras, comme pour interpeller les passants. La peinture recouvrant les œuvres a été refaite et modifiée à plusieurs reprises, mais les deux figures sont toujours représentées avec des couleurs vives. Leurs habits sont peints de bleu, de rouge, de rose ou encore de vert. Des fleurs y sont dessinées. Au milieu du parc, où la statue se situe, elle ne passe pas inaperçue. C'est l'artiste basque César Lombera qui a réalisé cette œuvre en 1994 en l'honneur des deux femmes représentées, deux sœurs. On les appelait las dos Marias, les deux Marias. Maruxa, celle qui porte un turban, est née le 4 janvier 1898 et décédée le 13 mai 1980. Coralia, elle est née le 24 août 1914 et est morte le 30 janvier 1983. Originaire de Santiago de Compostela, elle faisait partie de la grande fratrie de la famille Fandino Ricard. Au début du XXe siècle, plusieurs de leurs frères ont rejoint la CNT, le syndicat anarchiste. On ne sait pas si les deux sœurs ont également adhéré à l'organisation, mais leur idéologie politique était sans nul doute à gauche. En 1939, avec la victoire du camp nationaliste lors de la guerre civile et le début de la dictature franquiste, la répression fait loi. En raison de leurs idées anarchistes et de leurs engagements au sein de la CNT, les frères de Maruxa et de Coralia sont recherchés par les forces de l'ordre, puis torturés une fois retrouvés. Alors que certains se sont cachés, c'est sur les sœurs que va porter le poids de la répression. Par peur, les voisins de Santiago ne voulaient pas être associés à des anarchistes. Alors la famille va perdre son travail, sombrer dans la pauvreté et connaître la faim. Afin de trouver les frères cachés, les autorités de l'époque se présentent chez les deux sœurs à n'importe quelle heure de la nuit. Ils dévalisent leur maison, ils leur rasent la tête, ils les sortent nus dans les rues. Les deux Marias auraient également été emmenées dans les bois pour être torturées. La répression n'a pas seulement lieu dans les tribunaux militaires, c'est aussi dans la rue que se pratique la violence contre les femmes dissidentes. À ce propos, un article d'ABC de Madrid de 1937, à ce moment-là, la capitale espagnole est toujours sous le contrôle de la République, explique comment est la vie à Bilbao, à quelques kilomètres d'Amorebieta, depuis l'occupation. Aux Emakumes, on les oblige à balayer les rues, et l'on fait d'elles les cibles de préjudices répugnants. La tête des femmes des miliciens rouges ont été rasées, explique Ascension Badiola Aristumuño dans Individuas Peligrosas. À partir des années 1950-60, les deux sœurs qui ont subi agressions sexuelles, humiliations et autres traumatismes ont commencé à résister d'une manière insolite. Chaque jour, à 14h pile, heure de pointe à Santiago, les deux Marias sortaient se balader dans les rues de la ville, habillées de façon excentrique, portant un maquillage outrancier et des vêtements colorés, contrastant avec la sobriété de l'époque dictatoriale. Loin de s'enfermer chez elles, honteuses suite aux humiliations constantes qu'elles ont subies, elles ont gardé la tête haute jusqu'à la fin de leur vie. Leur balade colorée était une façon de faire face à la répression, à la dictature et à la misogynie. Elles ne se sont jamais cachées, elles se sont montrées avec fierté. Elles ont occupé l'espace et ont imposé leur présence dans le paysage urbain. Aimées par les habitants de la ville, ceux-ci les aidaient à survivre en leur ramenant des aliments en cachette. L'histoire des deux Marias, Maruxa et Coralia, est importante car elle constitue un exemple de résistance. Si l'histoire des femmes est souvent effacée, l'histoire des femmes pauvres est encore moins relayée. Il faut connaître l'histoire des femmes du peuple, des femmes aux idées révolutionnaires, des femmes qui se sont imposées jusqu'au bout après avoir tout perdu. Il faut connaître et diffuser les histoires de femmes intellectuelles, autrices, inventrices, scientifiques, créatrices, certes. Mais il faut aussi connaître et diffuser les histoires des femmes qui nettoyaient les maisons de ces dernières tout en gardant leurs enfants. Les histoires des femmes les plus oubliées et effacées, celles qui ont résisté au quotidien en n'ayant rien. Le féminisme doit se positionner fermement contre le fascisme. Il n'est pas possible de se prétendre féministe tout en demandant à des gouvernements fascisants de l'aide pour lutter contre le patriarcat. Se dire féministe sans lutter activement contre la montée du fascisme revient à tolérer une idéologie totalitaire dont, ironiquement, là encore, les femmes constituent l'une des principales victimes. il y a mille façons de lutter, d'influer sur le cours des choses, et ce qui nous semble primordial, c'est de n'en négliger aucune. Il n'y a pas de recette miracle aux révolutions. Il y a un déclencheur qui fonctionne parce que tout un travail en amont a été commencé par une multitude de personnes. C'est grâce à la somme de ces résistances qu'on peut espérer un grand mouvement collectif venant déstabiliser les pouvoirs en place pour fabriquer un monde nouveau.
Du coup, on en profite pour vous rappeler que le 8 mars, à Aubenas et ailleurs, il y a manif, et que c'est le moment d'y faire corps, tout en se racontant comment on lutte les autres jours de la vie. Autre info locale d'importance, on a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des permanences d'accueil au planning familial des Vences. C'est au 7 avenue Ferdinand Nadal, aux Vences. C'est les 1er et 3e mercredis du mois, de 14h30 à 17h30. Et les permanences ont débuté le 5 février. Les bénévoles vous accueillent pour un temps d'écoute et d'orientation autour des thèmes de la vie affective et de la santé sexuelle. Et vous pouvez aussi juste passer pour faire coucou et taper la discute, c'est fait pour ça aussi.
Et on vous dit au mois prochain, on réfléchira ensemble à des questions autour de la famille.